Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vers la liberté financière absolue. Ici Teddy pour vous présenter les 14 stratégies d'investissement immobilier les plus rentables que j'ai identifiées, les stratégies que l'on va appeler des stratégies hardware et des stratégies software. Alors, mais de quoi s'agit-il ces stratégies hardware et software? Alors, j'ai voulu tout simplement reprendre ce qui caractérise l'informatique. Vous savez, si vous vous intéressez un peu à l'informatique, aux ordinateurs, tout ce qui est hardware, c'est en fait tout ce qui est le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur qui va vous servir d'interface. Un computer, en fait, l'ordinateur est composé d'un disque dur, d'une carte mère, d'un écran. Tout ça, c'est la partie hardware, c'est vraiment le matériel. Et vous avez l'autre partie qui s'appelle la partie software, qui sont ni plus ni moins que les logiciels, le logiciel d'exploitation, enfin le système d'exploitation que vous allez utiliser, les différents logiciels que vous allez installer. Et les deux en fait sont complémentaires. L'hardware permet de supporter le software et le software a besoin d'un support effectivement pour être visualisé. Donc en fait, adapté à l'immobilier, tout simplement le hardware va caractériser le bien, c'est-à-dire la partie matérielle de votre investissement, hein, c'est des murs, hein, c'est clairement des murs et une toiture finalement. Et la partie software qui va concerner, qu'est-ce qu'on fait de ces murs? On va le mettre en location, ça va concerner tout ce qui est la gestion locative. Donc il y a 7 stratégies en hardware et 7 stratégies en software. Première stratégie hardware qui concerne le bien, donc acheter un bien à rénover. Acheter un bien à rénover, c'est-à-dire acheter moins cher qu'un appartement neuf, puisque la maison ou l'appartement sera abîmé, délabré, et donc à un prix clairement en dessous du prix du marché. L'idée, en fait, c'est d'acheter suffisamment bas pour que les travaux à prix maîtrisé permettent de remettre à neuf le bien pour le louer au prix du neuf. C'est particulièrement intéressant si l'appartement est bien placé, par exemple proche des métros, des commerces, des écoles, car une fois rénové, il se louera bien évidemment facilement. Deuxième avantage de taille, en fait, c'est l'économie d'impôt réalisée sur les travaux. La création d'un déficit foncier équivalent au montant des travaux, en fait, sera déductible de votre base imposable et donc vous pouvez avoir la possibilité d'annuler votre impôt pendant plusieurs années. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Prenons un exemple, vous avez 21 000 euros de travaux pour un revenu locatif de 7 000 euros par an, c'est-à-dire un loyer de 580 euros par an, par mois, pardon. Ce qui correspond à, sur 3 ans, 3 fois 7 000 euros à 21 000 euros de loyer. Le déficit foncier vous permettra d'annuler pendant 3 ans, tout simplement, votre impôt. Sans compter les autres charges qui sont déductibles, les intérêts d'emprunt pour la partie du crédit immobilier et d'autres types de charges que vous pourrez aussi déduire. Et ça, c'est aussi valable pour tout ce qui est achat en société ou en régime location meublée non professionnelle avec la déduction des travaux dans la partie du bilan comptable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième stratégie hardware, l'achat de plusieurs biens en même temps. Vous connaissez le principe de l'achat à grande échelle, l'achat du prix de gros. Quand vous achetez un pack d'eau de 6 bouteilles, la bouteille à l'unité vous reviendra moins cher que si vous achetez qu'une seule bouteille. Ou alors 6 bouteilles séparées différemment, en fait différentes en l'extérieur du pack. Et c'est exactement ce qui se passe dans n'importe quel autre type de produit, y compris en immobilier. Quand vous achetez plusieurs biens, un immeuble, ou plusieurs lots, ça peut être aussi plusieurs lots, un propriétaire qui se débarrasse de plusieurs lots différents qui peuvent se situer à différents endroits, ça peut arriver. Le prix à l'unité sera moins cher lors d'un achat groupé, c'est aussi simple que ça. Et vous avez donc une plus grande marge de négociation pour acheter plusieurs appartements en même temps. Voilà, vous aurez donc un prix de gros. Alors, il faut savoir qu'un immeuble, effectivement, ça peut faire peur. Bien sûr, c'est déconseillé d'acheter un immeuble lors d'un premier investissement. Vous aurez même du mal à convaincre une banque de le faire. C'est pas impossible. Mais, en tout cas, toujours se former pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce type d'investissement. Mais tout simplement, un immeuble, ce n'est pas forcément 18 appartements. Vous avez la possibilité d'acheter un petit immeuble de 3 ou 4 appartements. C'est tout à fait possible pour vous faire la main. Et donc ça, c'est plutôt bien pour justement bénéficier de ce levier de l'économie de la grosse échelle. Également, vous pouvez revendre une partie des biens en divisant votre immeuble à la revente et faire de la plus-value, tout simplement. Et vous avez la possibilité de mise en location, ici de dégager un cash flow positif. Alors attention, en fonction de ce que vous allez faire, il y a des démarches à faire. Si vous voulez revendre, diviser, etc., un bien, c'est pas forcément voilà, comme vous voulez. Il faut se renseigner avant de pouvoir faire ce type de démarche. Troisième stratégie, l'achat à plusieurs acheteurs, soit en nom propre, soit en société, soit en SCI. L'idée, en fait, c'est d'aller sur les plus gros projets que si on était tout seul et de pouvoir accéder à des projets qui sont trop chers pour soi. Tout simplement, c'est l'avantage du groupe. Avec un groupe, avec deux, trois personnes, vous avez une plus grande force de conviction par rapport à la banque. Et tout d'abord, vous avez une plus grande capacité d'endettement. La banque va le calculer aussi simplement que si vous étiez tout seul, mais sauf que vous êtes plusieurs. Et également un risque dilué par rapport à la banque, puisque la banque, plus il y a de monde sur le crédit, mieux ça l'arrange. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas, quand vous achetez à plusieurs, tous les acheteurs sont unis, je dirais pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté, si l'un des propriétaires ne paye plus sa part du crédit, bah, ce sont les autres. C'est aux autres en fait de régler la part du crédit et ça peut vous causer des problèmes. Donc attention avec qui vous vous associez, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Quatrième stratégie hardware de l'immobilier, création d'une pièce supplémentaire. Alors ça c'est une stratégie vraiment que j'affectionne parce que c'est assez simple à mettre en place et c'est relativement efficace. Par exemple, vous achetez un petit. Alors il faut savoir justement qu'un petit F4 se loue plus cher qu'un grand F3. Et idem, un petit F2 se louera plus cher qu'un grand F1. L'idée, en fait, c'est d'acheter un grand appartement mais avec peu de pièces, avec des possibilités, des potentialités de créer une nouvelle pièce. Donc, l'idée, c'est d'acheter en fait un appartement au prix du F1, mais de créer un F2. Donc, vous allez vous louer au prix du F2. Et donc, en ce sens, pouvoir dégager en rentabilité et même principe sur le F3 ou F4. Donc ça, c'est très simple à créer. Vous avez souvent une ou deux cloisons à créer pour créer une pièce. Vous n'avez aucune demande d'autorisation de la copropriété parce que vous êtes vraiment dans votre appartement. Et donc c'est vraiment efficace. Cinquième stratégie, plus technique, la division de lot. La division, en gros, c'est vous achetez un appartement, une maison ou un terrain. Il s'agit de diviser en deux ou plusieurs lots. Le bien qui initialement était constitué d'un seul lot. Cela nécessite des travaux. Pour un logement, c'est tout simplement et à minima l'ajout d'une deuxième salle de bain, l'ajout d'une deuxième cuisine et l'ajout d'un deuxième WC. L'idée est de créer un deuxième appartement au sein du premier finalement et d'en avoir vraiment deux biens distincts. Et pareil pour une maison. Pour un appartement, simplement, il faut faire attention à la copropriété. Car vous aurez des demandes d'autorisation dans certains aspects. Par exemple, si vous devez raccorder des évacuations d'eau aux colonnes centrales de l'immeuble, les colonnes centrales étant faisant partie de la partie commune, vous êtes censé voilà, demander l'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires. Également, vous avez besoin d'une autorisation de la copropriété pour la création du deuxième lot officiel, c'est-à-dire pour créer un compteur d'eau et un compteur d'électricité individuel. Pour une maison, c'est plus simple, hein. Vous êtes vraiment le seul maître à bord, je dirais. Pour tout ce qui est réorganisation de la maison, création du deuxième lot, c'est voilà, vous n'avez pas cette contrainte de la copropriété, vous êtes vraiment seul à bord. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la maison individuelle. Voilà. Donc l'idée de la division, clairement, c'est d'augmenter la rentabilité du bien, car bah, d'une part, vous pouvez sur l'un des deux biens faire un achat-revente, vous pouvez habiter dans l'un, revendre l'autre, et ou louer l'autre, ou vous pouvez tout simplement mettre les deux en location et vous louerez en principe avec cette stratégie plus cher avec deux petits lots qu'avec un seul grand lot, tout simplement. Sixième stratégie, la construction neuve. Et en fait, il s'agit de créer, au lieu de créer une maison sur un terrain comme on le ferait classiquement, vous pouvez essayer de créer deux maisons sur un terrain au lieu d'une. Vous avez le fameux exemple de la maison mitoyenne, donc des maisons collées qui sont voilà, sur un même terrain. Et l'idée en fait est de mutualiser lors de la construction bah, les frais et les coûts de la construction. L'idée en fait c'est de mutualiser bah, tout ce qui est bah, voilà, l'équipe qui va travailler sur le chantier, les outils, l'économie de gros fait sur les matériaux parce que vous en achetez plus donc vous pouvez en principe négocier encore mieux les matériaux avec la quantité. Vous pourrez donc construire moins cher et obtenir une meilleure rentabilité locative avec la possibilité d'habiter dans une des deux maisons et de revendre la deuxième par exemple ou faire de la location. Voilà, après à vous de voir en fonction de vos envies. Et donc là, le principe, c'est que bah, justement, ça puisse tout de suite rembourser une partie de votre crédit immobilier si vous revendez une des deux maisons, ou vous commencez à amortir un capital tout simplement en la louant ou en louant les deux maisons. Voilà. À noter aussi un avantage qui peut être de taille, c'est que dans ce cas-là, si vous devenez promoteur, en fait, si vous construisez un peu votre maison, vous faites un peu votre propre, vous êtes un peu le chef de chantier du projet, si vous voulez, vous pouvez utiliser des dispositifs de défiscalisation dans la construction neuve et donc tirer un levier intéressant. Donc selon les années, selon les dispositifs créés par l'État, parce que ça change un peu d'une année sur l'autre, vous pouvez donc réaliser grâce à ces dispositifs de défiscalisation de belles économies d'impôts. Et ça, c'est vraiment intéressant de se renseigner sur ces points-là. Septième et dernière stratégie hardware avant de passer aux stratégies software, l'achat aux enchères ou par adjudication. L'achat aux enchères, c'est tout simplement une stratégie qui a pour but d'acheter des lots décotés du fait de l'enchère. C'est des biens souvent qui ont été saisis par la justice et donc qui sont naturellement décotés pour les revendre et pour rembourser en fait bah, les gens qui sont derrière, soit la banque ou soit enfin, d'autres personnes qui sont au niveau de l'hypothèque. Et vous avez la possibilité d'acheter à des prix très inférieurs au prix du marché. Alors attention, puisque c'est quand même quelque chose d'assez particulier, la vente aux enchères. Vous avez des engagements à respecter, des versements préalables à faire, des règlements rapides à effectuer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller écouter l'un des épisodes du podcast, de mon podcast en fait, Focus Immo Pacifique, avec la success story d'un couple d'investisseurs qui a énormément fait d'achats aux enchères et vous apprendrez, je pense, énormément de choses sur le sujet. Sans plus attendre, je passe aux investissements software. La location nue, c'est la location classique. C'est la première grande stratégie qu'on utilise. Celle-ci, elle n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit de la stratégie la plus utilisée, la plus courante. Elle a l'avantage d'être très simple. Le souci, c'est qu'en France, le système, avec ce système-là, on aura une fiscalité relativement lourde sur le long terme. Après l'épuisement des diverses déductions d'impôts des toutes premières années, en principe, voilà, on sera assez relativement lourdement imposé. Deuxième stratégie, donc justement, qui allège, dans le but d'alléger cette fiscalité, c'est la location meublée. Alors, location meublée longue durée ou moyenne durée, avec un régime LMNP, c'est-à-dire location meublée non professionnelle. Elle présente l'avantage d'être très intéressante fiscalement, puisqu'à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de déduire l'amortissement du bien au bilan comptable, c'est-à-dire que chaque année, vous déduisez une partie du bien, une partie du prix du bien, en fait, de vos revenus locatifs, ce qui vous permet de réaliser une forte réduction, voire une annulation d'impôt sur quasiment toute la durée de votre crédit. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. L'inconvénient, c'est que bah, quand vous faites comme ça, il faut passer par un comptable. Et grosso modo, ça vous coûtera à peu près 500 euros par an pour un studio, compenser justement par rapport au gain sur l'impôt. Si vous payez entre 1000 et 1500 euros d'impôts, vous avez entre 500 et 1000 euros voilà, de gains que vous ne paierez pas. Donc c'est toujours très intéressant. Troisième stratégie, la location meublée courte durée. Alors, c'est un peu le même principe que la location meublée longue durée, sauf que vous vous basez sur une courte durée, c'est-à-dire à la nuit ou à la semaine. Voilà, c'est plutôt voilà, disons des durées inférieures au mois. Et c'est également le même régime LMNP qui permet de faire de la location meublée courte durée. Alors, simplement, il faut faire attention. Dans certaines villes, on a besoin d'autorisation. Il y a même des villes où c'est quasiment interdit de faire la location meublée. Donc, bien vous renseigner auprès de la mairie pour faire des déclarations, etc. Et l'idée en fait du modèle, c'est de louer, bien entendu, à la nuit ou à la semaine, plus cher que si on louait au mois, à frais maîtrisés, c'est-à-dire frais de ménage, frais de gestion locative. Si vous devez avoir une personne qui va accueillir les gens pour le check-in et faire la sortie pour le check-out, les états de lieu, etc. Tout ça, c'est une organisation qui se fait. Si vous arrivez à maîtriser ces prix-là, tout simplement, vous bénéficierez d'une rentabilité bien meilleure qu'en location nue. Voilà. Et également, vous aurez toujours l'avantage fiscal du régime LMNP, donc finalement double avantage. Quatrième stratégie software, c'est la colocation. L'idée, en fait, est de louer à plusieurs personnes ou à louer en fait un grand appartement à des personnes différentes. Souvent, ça se rapprochera de type F4 à F5, voire supérieur. L'idée, en fait, c'est que la personne loue une des chambres. Ça, c'est vraiment sa chambre à elle, c'est vraiment sa partie privative de l'appartement en colocation. Et que chaque personne de la colocation bénéficie, excusez-moi, d'une partie des parties communes en fait de l'appartement qui sont constituées par la cuisine, la salle de bain ou le salon. Dans la colocation, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse. Il y a les jeunes, d'une part, les étudiants, les jeunes travailleurs, pour une question évidente financière, puisque ça coûte moins cher en principe de se loger en colocation qu'en louant un appartement entier pour soi tout seul. Il y a aussi le côté social qui fait quand on est jeune, qui est intéressant, puisqu'on n'est pas tout seul, on est avec des copains, on se met avec des copains à l'université, et on voit aussi de plus en plus de colocations chez les moins jeunes, chez des gens aussi peut-être qui recherchent certaines formes de socialisation. Et également peut-être un intérêt financier. Donc vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce type de location qui peuvent être très très intéressants. Attention en revanche en copropriété, encore une fois, la copropriété, qui dit copropriété dit bien se renseigner au niveau du règlement de la copropriété pour voir si la colocation est autorisée. Tout simplement, il y a des immeubles, des copros, où il n'y a pas, c'est interdit. On ne peut pas faire de colocation. Il faut simplement, avant d'acheter ou de proposer, faire une offre sur ce bien avant de l'acheter, faut bien lire le règlement de copropriété. Pour une maison, pas de problème, hein. Vous êtes encore une fois le seul propriétaire, pas de copropriété, et vous êtes de ce fait seul à pouvoir décider si vous souhaitez faire une colocation, tout simplement. Une petite astuce, enfin petit tuyau simplement pour la colocation. Pensez bien aux places de stationnement. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour autant qu'il y ait de nombre de personnes dans votre maison, votre appartement. Ou alors, à minima, ce que je vous conseille, c'est bien veiller à ce qu'il y ait une station de transport en commun à proximité proche vraiment de l'appartement, métro, tramway, bus, Vélib. En fait, le mieux sera le mieux. Et dans ce cas, ce sera vraiment intéressant justement pour les gens de faire une colocation dans votre appartement. Cinquième stratégie, la stratégie de la typologie de locataire. La typologie de locataire, quelques exemples, la typologie de l'étudiant, la typologie de la famille, du jeune travailleur. L'idée de cette stratégie vient du constat qu'à une typologie de locataire spécifique, il y a un besoin particulier. Par exemple, un étudiant sera plus en demande d'une location meublée qu'une famille de deux enfants, ou une demande de colocation pour un grand appartement type F4, F5. Un jeune travailleur, lui, sera plutôt davantage intéressé par un F3, un F2, puisque il commence à gagner sa vie, il en a peut-être marre de la colocation et il a envie de prendre son indépendance, de peut-être fonder une famille, etc. Donc il va commencer à se porter sur ce type de bien. Une famille, ce sera plutôt un F3 ou un F4. Et un retraité, troisième, quatrième âge, lui va s'orienter en location vers des appartements ou des maisons à accessibilité réduite, avec ascenseur, ou alors sans escalier, peut-être avec un accès à fauteuil roulant. Donc voilà, effectivement, un accès très très facile, plutôt en rez-de-chaussée d'ailleurs ou en rez-de-jardin. Donc l'idée en fait est de faire correspondre votre choix d'investissement avec une typologie de locataire adaptée, de manière à ce que votre logement colle parfaitement aux besoins du locataire. En fait, si vous designez votre investissement, si vous façonnez votre investissement de manière à coller à une cible typologique très particulière, très spécifique, forcément, il va coller parfaitement à ses besoins et vous allez le louer beaucoup plus facilement. Sixième stratégie et avant-dernière stratégie software, la location d'une chambre de votre appartement ou d'une maison. Donc ça, c'est une stratégie très simple à mettre en place. Soit vous avez une chambre de libre, donc tout simplement, vous pouvez la mettre à louer sur des plateformes, même comme Airbnb, ça marche très bien. Et vous pouvez peut-être également avoir la possibilité, si vous n'en avez pas, de créer carrément une dépendance, c'est-à-dire un coin cuisine avec une chambre et une salle de bain au sein même de votre résidence principale. Imaginons, vous avez un garage dont vous n'en servez pas. Vous pouvez très bien débarrasser votre garage dans un cellier à côté ou dans un placard et créer un petit appartement, un petit studio. L'avantage, c'est qu'en tant que propriétaire, le locataire va payer une partie de votre crédit en cours et vous apporte un revenu complémentaire si vous avez fini de payer votre logement. Donc ça, c'est vraiment tout bénef pour vous. Je pense que c'est une des stratégies à adopter d'urgence si vous, justement, vous avez une grande résidence ou vous avez des enfants qui sont partis, donc des chambres de libre. Voilà, pensez à ça. Donc d'où l'intérêt également d'acheter une résidence principale plus grande que de besoin. Si vous optez pour cette stratégie, c'est relativement simple à mettre en place encore une fois. Enfin, septième stratégie et quatorzième stratégie en tout, comme promis, c'est la stratégie du gîte ou de la chambre d'hôte qui correspond à une activité commerciale. C'est-à-dire que si vous avez le sens de l'accueil, de l'hospitalité et que votre région le permet, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une activité touristique, saisonnière, intéressante, vous pouvez vous lancer dans ce type d'activité qui pourra être complétée, donc pas que faire du logement, pourra être complétée par des services autres que l'immobilier comme la restauration, la laverie, voilà, tous les types de services qu'on peut proposer dans des gîtes ou dans des chambres d'hôtes. Voilà, ce qui est bien dans ces stratégies hardware, les softwares, c'est que bah, vous avez la possibilité de faire des combinaisons de plusieurs stratégies, hein. Par exemple, imaginons que vous faites un achat groupé à rénover, donc acheter plusieurs appartements en même temps dans un immeuble, mais en même temps avec des travaux. Donc vous avez un double levier. Déjà, vous avez économisé, vous avez le prix gros, et en plus, vous avez la décote par rapport aux travaux. Si vous avez faire des travaux, vous avez une bonne équipe d'artisans, vous gérez ça à merveille, et ben là, vous avez clairement la possibilité de faire une forte plus-value à la revente ou carrément un très très gros cash flow pour un investissement locatif. Notez également que vous avez la possibilité de faire des combos au niveau des stratégies hardware-software, c'est-à-dire mixer une certaine stratégie de bien avec une autre stratégie de location. Je m'explique. Exemple. Sur cet exemple, on achète un grand appartement et on ajoute une chambre. Donc c'est un F4, on a un F5. Et on rajoute une salle de bain pour que ce soit vraiment agréable pour l'ensemble des personnes qui vont y vivre. Et on fait une colocation. On peut avoir, voilà, par exemple, 5 colocataires qui vont se répartir les chambres de cet appartement. Et en même temps, vous dites, OK, au lieu de la louer en nu, je la loue en meublé. Et du coup, ça vous fait bénéficier du statut de LMNP, location meublée non professionnelle, et des avantages fiscaux associés. OK, c'est un fort investissement de départ d'acheter les meubles pour une colocation. Ceci dit, derrière, ça peut être vraiment très très intéressant puisque la location, la colocation meublée, il y aura cet avantage fiscal. Et vous avez aussi l'avantage de faire tourner les colocataires. C'est un peu vous le maître à bord, si vous voulez, c'est vous vraiment le maître à bord au niveau de vos chambres. Vous pouvez sélectionner aussi vos locataires par rapport à ça, par rapport au standing de votre colocation. Et voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Au final, C'est à vous de faire votre idée, en fait. C'est à vous de voir quelle stratégie hardware vous souhaitez, vers vous souhaitez vous porter, en fait. Celle qui concerne le bien et la stratégie software, qui celle qui va concerner la gestion locative, à adopter en fonction de votre stratégie pour vous et votre bien. Enfin, voilà, si vous avez en tête toutes ces stratégies, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les revoir, vous pouvez réécouter cet épisode. Si vous avez entendu des choses intéressantes, vous pouvez les noter. Et en regardant les annonces, vous pouvez très bien passer en mode opportunité et repérer des biens qui peuvent être intéressants pour telle ou telle stratégie. C'est-à-dire sans à l'avance cibler ou choisir une stratégie particulière. Donc, et du coup, vous êtes en mode plutôt GPS et vous repérez les bonnes opportunités qui seraient adaptées à telle ou telle stratégie. Ou alors vous ciblez tout simplement une stratégie et vous essayez de filtrer dans les annonces tout ce qui correspond à cette stratégie. À vous de vous organiser en fonction de vos préférences, simplement. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, votre soutien pour ce podcast. Comme d'habitude, partagez cet épisode à vos amis, à votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode du podcast est publié. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.